Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Docteur Patrick Clairvoy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin, psychiatre, professeur agrégé du Val-de-Grâce et ancien titulaire de la chaire de psychiatrie et de psychologie médicale appliquée aux armées. Alors, vous êtes spécialiste du stress et du traumatisme psychique. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce titre, Les pouvoirs de l'esprit sur le corps? Comment est venue à vous l'idée de ce titre et à la suite de quelles expériences dans votre travail?
Alors, ce livre, j'ai mis plusieurs années à le conduire à son terme et à sa publication, mais il y a deux éléments essentiels qui ont concordé pour cela. D'abord, je suis un passionné du phénomène psychosomatique. Par exemple, pourquoi une émotion... Tout simplement, on va parler de l'émotion. Une émotion, immédiatement, vous avez la peau qui réagit, vous avez des rougeurs, vous avez les poils qui se hérissent, ce qu'on appelle une horripilation, vous avez le cœur qui s'accélère, et réciproquement, on voit certains phénomènes physiques, purement charnels, pouvoir s'améliorer grâce à une performance psychique, comme par exemple la prière.
Comme ?
La prière.
La prière.
Et je vous raconte une anecdote. Je parle avec un monsieur assez âgé, qui avait déjà à l'époque passé 75 ans, et qui me raconte, il sait que je suis psychiatre, il me raconte un épisode dépressif qu'il a fait alors qu'il était tout jeune homme. Et il me raconte sa détresse, etc. Et puis il dit, vous savez comment j'ai guéri, docteur? Alors, dans ma tête, il a pris des antidépresseurs, il a fait une psychothérapie, et donc je lui dis, l'un et l'autre, il fait pas du tout la prière. Et quelque part, ce vieux monsieur m'enseignait qu'avec de la prière, on pouvait guérir. Et j'ai eu plusieurs occurrences dans lesquelles j'ai pu réaliser que, notamment par exemple, une démarche spirituelle pouvait participer à une guérison. C'est ce qui m'a amené, par exemple, à m'intéresser aux miracles de Lourdes, et je les aborde assez abondamment dans ce livre. Qu'est-ce qui fait ? Vous savez qu'à l'époque, c'est le grand neurologue français Charcot qui était intrigué par ces phénomènes, qui n'acceptait pas ou qui avait du mal à accepter qu'un désordre psychique qu'il nommait hystérie pouvait produire des guérisons miraculeuses. Et Charcot avait lui-même qualifié Bernadette Soubirous, celle qui a vu l'apparition de la Vierge à Lourdes, l'avait qualifiée d'irrégulière de l'hystérie. Et finalement, il a fait tout un ouvrage dans lequel il démontrait que toutes les guérisons qui étaient dites miraculeuses, on y trouvait une explication neurologique avec sa théorie. Mais moi, ça me convient parfaitement. Ça veut dire que moi, ça n'enlève pas le miracle quand on dit que quelqu'un est allé prier et qu'il a instantanément ou quasiment instantanément trouvé la guérison là où la médecine classique à l'époque n'y arrivait pas. Voilà. Donc, les phénomènes psychosomatiques, les guérisons miraculeuses font partie de ma réflexion depuis très longtemps. Le deuxième point, c'est la guérison. Il y a une énigme en médecine, c'est que vous avez beaucoup d'ouvrages savants, très détaillés, très précis, sur les différentes maladies, leurs symptômes, les traitements. Mais est-ce que vous avez un ouvrage qui définit la guérison ? Eh bien, cherchez un livre dans une faculté de médecine qui s'appelle « Traité des guérisons », il n'y en a pas. Et d'une certaine manière, la médecine ne regarde pas assez le phénomène qu'on peut appeler la guérison. Et j'ai trouvé dans la médecine grecque ancienne, alors je crois que c'est Hippocrate, mais je n'ai pas les références précises, qui disait, écoutez cette phrase, elle est très importante, la guérison, c'est la réconciliation avec le corps. Eh bien, ça me convient parfaitement. Ça veut dire que le corps peut avoir des symptômes, mais si finalement avec ces symptômes, on est bien, on arrive à vivre, aujourd'hui je dirais, on peut être autonome dans son existence et avoir la vie aussi riche que si on n'avait pas ces symptômes, pourquoi refuser le mot guérison ? Et donc j'ai par exemple tout un chapitre consacré aux fausses maladies. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont bien, mais on leur dit non, mais si vous avez une chute de cheveux, c'est pas normal, ça peut entraîner de la dépression, donc tenez, prenez ce médicament contre la chute des cheveux. Voilà. Ou vous avez des personnes qui disent, voilà, j'ai des taches de rousseur, oui, madame, ou oui, monsieur, c'est une maladie, on va vous les enlever. Et donc, il y a aussi ce qu'on appellerait les fausses maladies. Et vous savez que la langue anglaise nous propose différents termes pour désigner maladie. Vous avez le illness, qui est le se sentir malade. Vous avez, les mots anglais m'échappent, mais vous avez disease, par exemple, qui dit qu'il y a un fonctionnement irrégulier de l'organisme. Bon, et vous en avez un certain nombre d'autres, mais finalement, il y a plusieurs façons d'être malade et plusieurs façons de se sentir malade. Et finalement, par rapport à ces différents aspects psychologiques qui accompagnent les maladies somatiques, il y a aussi différentes réponses thérapeutiques. Et oui, j'espère que mon livre le confirme largement, il y a des pouvoirs de l'esprit sur le corps qu'il faut savoir utiliser.
Alors, vous avez parlé de prière qui peut avoir une incidence sur un phénomène pathologique. Alors, quel est le mécanisme psychique en jeu pour que nous on puisse provoquer une guérison ou une pacification avec nos symptômes, puisque vous avez parlé de réconciliation avec le corps?
Alors, ce que j'énonce maintenant, ce sont mes hypothèses personnelles. Évidemment, il peut y en avoir d'autres, on peut les critiquer. Mais par exemple, j'ai beaucoup travaillé sur ce que j'appelle les images mentales du corps. C'est-à-dire comment, dans mon cerveau, je me représente mon corps en train de fonctionner. Alors, je vous donne une anecdote que je lis dans le livre, mais par exemple, quand vous avez des gens qui ont une malformation valvulaire cardiaque et qu'ils doivent subir une intervention, un remplacement valvulaire, il y a eu une étude qui a montré qu'on faisait dessiner par ces patients la façon dont ils se représentaient le cœur. Et ils faisaient des traits qui n'étaient pas jointifs. Et après l'intervention, on leur demandait, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez à nouveau dessiner le cœur comme vous l'avez fait la première fois, comme on vous l'avait demandé. Et on s'aperçoit que là, les gens font des traits jointifs. Et on s'aperçoit que, en permanence, dans notre esprit, l'image mentale du corps se modifie en fonction des symptômes que l'on éprouve et de ce que l'on imagine du trait. Vous savez que quand on demande à quelqu'un, par exemple, de parler d'une douleur, le vocabulaire est très riche. Il dit « ça me tord, ça me brûle, ça me pique, ça me pince, ça me vrille, etc. » Et tous ces termes montrent bien que l'on a une image mentale du processus qui est en train, du processus morbide qui est en cours. Eh bien, si par exemple, vous avez une prière dans laquelle vous sollicitez l'entité spirituelle que vous choisissez, mais dans la religion, vous pouvez choisir Dieu, mais vous pouvez, par exemple, chez les catholiques, surtout en Méditerranée, vous regardez les églises et les différents saints que l'on peut évoquer pour les guérisons, Vous savez qu'en Bretagne, il y a les saints guérisseurs de Bretagne. Et vous avez pour la maladie de la peau, tel saint guérisseur, pour les maladies articulaires, tel autre saint guérisseur, etc., etc. Bref, si à travers la prière, vous essayez de vous représenter comment, par l'intervention d'une entité supérieure, quelque chose peut venir réparer votre organisme, eh bien quelque chose se met en route et vient réparer votre organisme. Est-ce que je raconte des bêtises ? Eh bien, il suffit de réfléchir, et aujourd'hui c'est ce qu'on fait dans les universités américaines, sur l'effet placebo. L'effet placebo, c'est je vous donne un médicament qui n'a aucune action thérapeutique, on va dire c'est de la farine et du sucre, point barre, mais je vous dis, prenez ça, ça va vous soulager. Eh bien, dès que les patients ont ce comprimé dans la main, déjà, ils éprouvent un soulagement. Alors, vous avez, je les évoque dans le livre, notamment les études de quelqu'un, un Américain qui s'appelle Ted Kapchuk, ben, qui a des crédits et de l'argent pour étudier uniquement l'effet placebo. Et je trouve que les Américains ont été très pertinents d'étudier l'effet placebo. Quand vous regardez nos études, l'effet placebo nous dérange. Parce que les médicaments ont fait du bien alors que ce n'est pas le médicament qui a fait du bien. Et donc, nous, on regarde l'effet placebo, on a tendance en tous les cas à le regarder comme un effet parasite. Mais si l'effet placebo est venu augmenter l'effet thérapeutique d'un médicament, on le prend. Et j'allais dire, on l'utilise. Ted Kapchuk a montré par exemple qu'un effet placebo marche avant même que nous ayons conscience que nous avons pris un médicament. Deuxième point. Alors, ils ont fait cette étude chez des personnes qui avaient une maladie de Parkinson. Et on leur disait, voilà, vous allez prendre ce médicament est inactif et c'est un placebo. Et bien, même si les patients sont informés que c'est un médicament inactif et qu'il fait un placebo, le fait de prendre quelque chose en rapport avec l'action thérapeutique sur une maladie, il y avait une amélioration. Autre exemple, c'est que l'effet placebo, ça paraît un peu curieux, mais plus le médicament est cher, plus l'effet placebo est fort. Donc on a fait d'autres études, là c'était sur les colopathies, et on a donné aux gens un effet placebo en leur disant, voilà, ce médicament coûte 10$, un autre coûtait 500$, et un autre coûtait 2000$. Et bien, on s'aperçoit que plus le médicament coûtait cher, plus l'effet placebo était fort. L'effet placebo, s'il exige une manipulation, est aussi beaucoup plus fort. Il a été démontré, par exemple, qu'un produit placebo donné par voie orale en comprimé avait un effet X. Et bien, si par exemple, vous l'appliquiez en pommade, et bien, il avait un effet thérapeutique qui était deux fois X. D'où le mot des Anglais, rub it instead of eat it. Voilà, au lieu de le manger, frottez-le. Et il a même été démontré que les injections, c'est-à-dire tous les soins apportés via une seringue et une aiguille, avaient aussi un effet placebo beaucoup plus développé que l'effet placebo par voie orale. Et donc finalement, ces études ont amené à comprendre pourquoi la prière pouvait aider la guérison. Et aujourd'hui, on pense qu'il y a des prédispositions génétiques. C'est ce qu'on appelle le placebome. Et cette prédisposition génétique, alors je ne vous donne pas les caractéristiques parce que ce n'est pas ma spécialité, mais il y a des études qui l'ont démontré, font qu'il y a des gens qui sont éligibles à avoir un effet placebo fort. Et d'autres moins. Ça, c'est un peu injuste. Mais finalement, s'il y a des gens qui ont cet effet placebo fort, on aurait dit autrefois, c'est Charcot qui l'aurait dit, ces gens qui ont une forte sensibilité, susceptibilité, voilà, c'est des gens qui sont très influençables. Mais si finalement, quelqu'un, par la suggestion, peut avoir des effets thérapeutiques amplifiés, utilisons ces effets thérapeutiques. Voilà. Et donc, vous savez que ça a donné, c'était il y a un siècle exactement maintenant, ça a été ce qu'on appelait la méthode Coué. Coué, ce pharmacien de Nancy, qui démontrait que la suggestion avait un pouvoir bien plus fort que la conscience, et que si par suggestion, vous vous disiez tous les jours « je vais de mieux en mieux, je guéris et mes symptômes disparaissent », eh bien, effectivement, vous obtenez des effets de cet ordre. Ça paraît ahurissant, mais il ne faut pas le dénigrer, il ne faut pas considérer que c'est quelque chose d'imbécile ou que les patients suggestibles seraient plus faibles ou intellectuellement que les autres. La suggestibilité peut permettre l'accès à la guérison. Donc, utilisons-le.
Alors, pour revenir à cette idée de l'image du corps que nous avons de notre corps nous-mêmes et que l'on pourrait représenter, par exemple, par le dessin, comme ce malade en attente de chirurgie cardiaque à qui l'on demande de dessiner son cœur avant l'intervention chirurgicale et qui dessine son cœur avec une fente entre dans la valvule, c'est-à-dire une béance, voilà. Un trou. Et puis une fois qu'il, dans votre livre, je vous cite, une fois que la chirurgie a été pratiquée sur ce malade, on lui demande de nouveau de redessiner son cœur et il n'y a plus le trou. Alors l'idée pour moi, c'est de parler de cette image du corps. Est-ce qu'il y a une zone cérébrale que vous présentez comme celle de la construction de l'image, et corollaire, peut-on agir sur cette zone? Est-ce que nous pouvons traiter directement les zones malades sur le cortex plutôt que sur le corps lui-même? Quel est le genre d'intervention?
Alors, ça s'explique. Il y a des aires de projection, des aires corticales de projection du corps sensitif, et il y a la même chose du corps moteur. Mais je vais vous raconter une anecdote et l'échec d'une recherche. Mais vous savez, l'échec d'une recherche nous apprend toujours quelque chose. Il y a tout un chapitre qui est développé à ça, parce qu'un jour, j'ai eu la surprise d'être appelé aux urgences de l'hôpital où je travaillais parce qu'une femme venait de plonger pendant plusieurs heures sa jambe dans de la neige carbonique.
Elle l'a congelée, quoi.
Elle a congelé sa jambe intentionnellement, afin d'obtenir une amputation de cette jambe. Et je découvre une maladie qui n'avait pas été référencée avant, mais qui est déjà à l'étude aux États-Unis, en tous les cas outre-Atlantique, qui s'appelle BIID, Body Identity Integrity Disorder. Ce sont des gens qui estiment qu'ils ont un bras qui n'est pas le leur et ils n'en veulent pas, et qui demande l'amputation d'un bras ou qui demande l'amputation d'une jambe. Bon, on n'avait jamais vu ça. Et d'ailleurs, j'ai dû un peu réfréner des moments d'agressivité de certains personnels soignants vis-à-vis de cette femme qui ne demandait pas la réparation de sa jambe brûlée par le gel, mais qui en demandait l'amputation. Je vais aller rapidement là-dessus, mais c'est déjà très intéressant d'observer pourquoi un phénomène morbide nouveau apparaît comme celui-ci. Pour info, les médias ont largement contribué à diffuser cela, et j'ai eu, quelques années après avoir pris en charge cette patiente, la surprise de découvrir que un épisode d'une série télévisée qui s'appelle Nip Tuck, qui est une série télévisée qui met en scène des chirurgiens, il y a un NIPTE où il y a exactement le même cas. Et ma question est la suivante. Est-ce que c'est ma patiente qui s'est inspirée de ce téléfilm pour, j'allais dire, construire sa représentation, son image mentale et demander, comme on la voit exactement dans le film, une amputation de sa jambe avec le même dispositif d'introduire la jambe dans de la neige carbonique après avoir pris un antalgique suffisamment puissant pour pouvoir garder cette jambe au moins 40 minutes dans la neige carbonique, etc., etc., etc. Ou alors, est-ce que c'est ma patiente qui, ayant largement diffusé son histoire sur les réseaux sociaux, qui a inspiré les scénaristes d'Hollywood? En tous les cas, j'ai demandé, à l'époque, je travaillais avec l'Institut du cerveau à Marseille, et un service de psychiatrie aussi, et j'avais demandé qu'on puisse faire une évaluation IRM et notamment aussi une évaluation neurofonctionnelle de ces aires corticales. Je m'inspirais du phénomène inverse de ce qu'on appelle le membre fantôme. Pour rappel, le membre fantôme, c'est le problème suivant. Quelqu'un qui a eu un accident au cours duquel il a, par exemple, perdu son bras, dit qu'il continue à sentir sa main, alors qu'elle n'existe plus, et très souvent sa main dans la position dans laquelle elle était au moment de l'accident. Ça s'appelle le membre fantôme. Je pense que c'est un phénomène qui est assez commun, j'ai pas besoin de le décrire davantage. Ça veut dire que au niveau des aires cérébrales, il y a toujours la persistance de la projection de ce membre qui n'existe plus, et donc le sujet continue à recevoir des informations parce qu'elle est toujours présente dans son cortex, alors que le membre, lui, n'y est plus. C'est clair pour le membre fantôme ?
J'ai bien compris que si la personne qui n'a plus sa jambe continue à communiquer encore avec cette jambe qui n'existe plus, c'est parce qu'il y a une référence mentale dans son image mentale, dans son cerveau. C'est là qu'habite l'idée de sa jambe, et sa jambe a disparu malheureusement, mais l'image est toujours là en référence dans son image mentale. Mais ma question, c'est: peut-on imaginer pouvoir traiter les malades sur cette image mentale, donc sur leur cortex, sans avoir à intervenir sur le corps?
Alors, à mon avis, c'est ce que l'on fait déjà, notamment avec toutes les approches de médecine parallèle qui impliquent le corps. Je prends par exemple en sophrologie ou par exemple le Qigong ou le Tai Chi, où vous avez des postures dans lesquelles, par exemple, les gens, avec une rotation du tronc et une flexion sur les jambes, et vous avez une posture où on dit, ben voilà, là vous massez le pancréas. Bon, évidemment, personne ne masse son pancréas. Mais finalement, s'il a la représentation mentale qu'il masse son pancréas, qu'il est en train de drainer ses voies biliaires, quelque part, je sais qu'il opère quelque chose qui vient réduire des symptômes fonctionnels digestifs. Donc, il y a un bénéfice. Et toutes les approches, par exemple, psychothérapeutiques, dans lesquelles on aide le sujet, et je reprends la phrase d'Hippocrate, on aide le sujet à se réconcilier avec son corps, eh bien, on améliore la santé de la personne.
Alors, vous posez des questions, s'il vous plaît, docteur Patrick Clairvoy, à la lueur du livre que vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob, Les pouvoirs de l'esprit sur le corps, qui est absolument vertigineux, très intéressant, sur la guérison. Comment pourrait-on agir, puisque vous avez parlé de réconciliation avec le corps, il s'agit là d'une énergie vitale, j'ai envie de continuer à vivre, j'ai en moi une énergie vitale, comment entretenir favorablement cette énergie vitale qui pourrait venir en renfort lorsque j'aurai une maladie, lorsque j'aurai quelque chose, est-ce que cette force en moi, latente, est-ce que je peux l'entretenir favorablement, bien sûr?
Oui, et elle a un nom, cette force. Il a fallu du temps pour la trouver. Mais je la définis comme étant l'espérance. Et je vais vous donner un exemple. Alors, il n'est pas dans le livre, mais c'est une patiente qui me l'a raconté après, je l'ai noté. Elle raconte que son grand-père, 76 ans, déclenche une leucémie. Et que, malheureusement, dans le service d'oncologie dans lequel il se trouve, on s'aperçoit qu'il est en échappement thérapeutique. En échappement thérapeutique, ça veut dire que la chimiothérapie ne permet pas de corriger le désordre cancéreux du sang. Et elle raconte qu'elle va vers son grand-père et qu'elle lui dit ceci: « Papy, il faut vous accrocher. » Et elle lui annonce: « Vous allez être grand-père. » Vous allez être arrière-grand-père. Eh bien, elle lui a donné les forces pour guérir, parce que avec cette annonce et cette espérance, il a mobilisé quelque chose. Elle me raconte que 15 jours après, eh bien, il était debout au pied de son lit, bon pied, bon œil, bien vivant, et elle me raconte qu'il a survécu 15 ans. Je raconte une autre histoire, parce que, bon, c'est plein d'histoires, mais c'est, toutes ces histoires sont autant d'exemples qui sont les meilleures démonstrations de ce que je raconte. Je me suis intéressé à l'histoire d'un scientifique que j'aime beaucoup, qui s'appelle Stephen Jay Gould, qui est un biologiste, pour résumer. Voilà, biologiste, paléontologue. Stephen Jay Gould, un jour, déclenche un cancer digestif, et qui est un sarcome du tissu digestif, autant dire, quand on prononce ces mots-là, qu'on annonce un cancer d'une très très grande sévérité. Il va, c'est lui qui raconte son histoire, hein, mais je l'ai mise dans un chapitre du livre. Et donc, Stephen Jay Gould, qui vit à New York, est opéré dans le meilleur centre pour être opéré, il est opéré. Le chirurgien dit au chirurgien, qu'est-ce que vous avez comme document scientifique sur ce sarcome digestif? Alors, il dit que le chirurgien lui fait une réponse très évasive, qu'il n'y a rien de neuf, pas de nouveau, etc. En tout cas, il ne lui répond pas. Stephen Jay Gould, scientifique, dès qu'il peut le mettre un pied par terre, il file à la bibliothèque médicale du centre où il est traité. Il y avait déjà les ordinateurs, il fait une recherche Internet et il fait ce qu'on appelle la bibliographie, c'est-à-dire il récupère tous les articles récents sur sa pathologie. Et là, il a une information terrible. Je vous la livre. La médiane de survie de ce cancer est de 2 ans. Et il raconte qu'il s'est senti écrasé par quelque chose de très très lourd. Et puis, le scientifique a l'esprit qui reprend. Médiane de survie. La médiane, statistiquement, c'est la limite à partir de laquelle on sépare en deux une population. En clair, chez les gens qui ont ce sarcome, la moitié meurt avant 2 ans et l'autre moitié survit au-delà de 2 ans. Ça ne dit rien de plus, rien de moins. Il réfléchit. Qui sont les patients qui meurent avant 2 ans? Ben, ceux qui n'ont pas le diagnostic, ceux qui ont des comorbidités particulièrement lourdes, ceux qui n'ont pas accès aux soins de qualité comme ceux qu'il a eu, dont il a bénéficié. Et il dit finalement, je suis dans les meilleures conditions pour guérir. Et bien, il a guéri. Et il a survécu plusieurs années. Il est décédé aujourd'hui, mais d'autres choses. Et après, je crois, 12 ans après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on dit aussi, l'espoir est notre énergie. Et il faut toujours, nous, soignants, aider les patients à avoir une espérance. Je reviens un peu sur Lourdes, sur les miracles de Lourdes. Qu'est-ce que c'est que le miracle de Lourdes? C'est des gens qui viennent chercher peut-être le dernier espoir qu'on leur laisse. Alors vous savez que Lourdes, aujourd'hui, pour déclarer miracle, c'est une commission médicale particulièrement sévère qui vérifie, un, qu'il y a bien un diagnostic de maladie incurable. 2, que le patient qui a guéri à Lourdes, il ne recevait pas en même temps des traitements. 3, que la guérison est inexplicable. Eh bien, vous savez que, alors aujourd'hui, on a des moyens diagnostiques, je peux vous dire, qui sont autrement plus développés que ceux qu'on avait à l'époque de Bernadette Soubirous au XIXe siècle. Eh bien, vous avez quand même régulièrement cette commission qui reconnaît des guérisons miraculeuses. Et je pense qu'on en a encore eu des guérisons miraculeuses, y compris au XXIe siècle, malgré une Église assez réticente à l'admettre, malgré un comité médical très attentif à ce qu'on ne prononce pas miracle abusivement. Et donc finalement, les gens qui vont à Lourdes, ils y vont avec une espérance. Alors un autre facteur aussi qui mobilise énormément cette énergie vitale, c'est le fait d'être avec une foule de gens qui vous aident à espérer, qui vous accompagnent à espérer. Je raconte dans ce livre particulièrement 2 miracles. Mais il y en a un qui est très émouvant, qui est une femme au milieu de cette foule, en prière, qui a une maladie de la peau, ce qu'on appelle un lupus, qui a atteint tellement sévèrement son visage qu'elle en a les joues trouées. C'est-à-dire que quand elle mange, cette femme est obligée avec le doigt d'obturer sa joue pour que l'aliment ne ressorte pas. Eh bien, cette femme, et ça a été attesté par le comité médical de Lourdes, cette femme a guéri en quelques heures. C'est-à-dire que tout d'un coup, un processus est venu cicatriser sa peau à une vitesse accélérée. Alors, vous pouvez être incrédule devant un miracle, devant deux miracles, mais finalement, quand vous apercevez que ce phénomène, quand même, est répétitif, quand vous apercevez que dans plusieurs cultures, plusieurs civilisations, plusieurs religions, il y a ces récits de guérison miraculeuse, eh bien, vous êtes obligé d'accepter l'idée que non seulement l'esprit a des pouvoirs sur le corps, mais que ces pouvoirs sont particulièrement puissants.
Docteur Patrick Clairvoyant, donc il y a l'espérance, il y a la prière, mais nous ne sommes pas tous égaux devant la vie. Il y a ceux qui vivent longtemps, dont les parents, les grands-parents. Il y a un phénomène que l'on peut observer de longévité chez les êtres humains. Cette longévité, est-ce que vous avez pu l'analyser, la quantifier, la localiser? Est-ce que c'est un programme génétique dans l'individu?
Alors, oui, en partie. Alors, j'ai envie de répondre deux choses. Je vais vous rendre, le biologiste va vous répondre. Enfin, en tout cas, je ne suis pas biologiste, mais les résultats de la biologie que j'ai étudiés me permettent de répondre. Mais en même temps, le psychiatre va vous répondre aussi. Alors, biologiquement, nous avons des protéines qui sont dans notre corps, qu'on appelle la P52, qui en permanence visitent l'ADN de nos cellules de façon à éliminer une cellule qui deviendrait cancéreuse. Les éléphants ne font jamais de cancer parce que je crois qu'ils ont plusieurs dizaines dans leurs chromosomes, ils ont plusieurs dizaines de ces protéines. Nous en avons deux. Et nous savons aussi que chez la plupart des gens qui ont déclenché un cancer, ces protéines ont été inactivées. Et donc, l'interrogation est la suivante. Pourquoi les a-t-on inactivées? Et on s'aperçoit que le processus de maladie et de mort fait partie du processus vital. Alors, ce n'est pas ma démonstration, hein, mais je l'ai reprise d'un biologiste qui nous explique que finalement, le vieillissement, c'est pas un mécanisme qui n'est que dégénératif. C'est un mécanisme activement dégénératif de façon à ce que les anciennes générations disparaissent.
L'évolution, alors?
Il y a aussi l'évolution, mais même en dehors de toute évolution, nous sommes fabriqués pour vivre et pour mourir. Et je montre dans mon livre, à travers quelques exemples, que ce serait une catastrophe d'être immortel. Voilà, et ben bon, je ne vais pas rentrer dans les détails et vous dire pourquoi. Mais ça me fait raconter quelque chose quand je dis les pouvoirs de l'esprit sur le corps. Dans les phénomènes de guérison miraculeuse qui n'ont rien à voir, en tout cas de guérison spectaculaire, qui n'ont rien à voir avec la religion, mais qui se produisent, vous avez, à certains moments, chez des patients qui sont en fin de vie, au moment de l'agonie, c'est-à-dire dans les dernières minutes, une rémission totale de tous les symptômes. On appelait ça l'amélioration de la mort, et même à l'époque, les gens avaient cherché s'il n'y avait pas une molécule libérée lors de la fin de vie, lors de l'agonie, qui pouvait soulager les gens. On appelait cette molécule hypothétique l'agonine, mais elle n'a jamais été identifiée. Mais je donne quelques exemples et témoignages de ces guérisons miraculeuses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si des gens qui ont été terriblement malades pendant des années, incurables, la dernière demi-heure de leur vie, ils se lèvent, ils mangent, ils parlent normalement, je parle ça pour par exemple les grands fous, les grands démons, et ils ont un comportement d'un être tout à fait normal, puis ils se couchent et ils meurent. C'est quand même qu'à un moment donné, dans le corps, il s'est produit quelque chose où il n'y a plus du tout les symptômes des maladies chroniques qu'ils ont eu pendant très longtemps. La deuxième chose que je voulais évoquer par rapport à cette longévité, c'est il y a aussi une inégalité des gens devant la maladie. Il se trouve que pas plus tard que ce matin, une patiente me disait « Pourquoi j'ai eu tout ça ? Pourquoi j'ai eu trois cancers ?» Elle dit « Et ma sœur, elle, rien !» Et je lui racontais quand même cette citation de Montaigne, c'est dans les Essais, qui racontait qu'il connaissait beaucoup de gens qui avaient vécu une vie en très très bonne santé, avec une forme exceptionnelle, et qui étaient morts précocement. Et que par contre, des gens affectés très tôt dans leur vie par des troubles digestifs ou ce que vous voulez, ou rhumatismes, etc., avaient été contraints, de par leur maladie, à suivre toujours des régimes diététiques et une hygiène de vie particulièrement sévère pour s'épargner des rechutes de leur maladie. Et finalement, ces gens-là ont vécu très longtemps. Ça veut dire aussi que si vous êtes attentif à votre corps, si vous êtes prudent, si vous, si vous ne négligez pas ce qu'on appelle, nous, l'hygiène, hein, l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie, l'hygiène de sommeil, etc., eh bien, vous augmentez considérablement votre longévité. J'ai commencé par dire, tout simplement, arrêtez de fumer, faites un peu de sport. Voilà, par exemple. Et la particularité aussi, c'est que on voudrait tous ne pas mourir. On voudrait tous ne pas mourir. En même temps, on sait bien que personne n'y échappera. Et l'idée, c'est aussi de se réconcilier avec la mort et se réconcilier avec la fin de vie. Et je rappelle encore ce mot de Montaigne, la mort n'est pas l'opposé de la vie. La mort, c'est l'opposé de la naissance. C'est-à-dire qu'avec la naissance débute la vie, et avec la mort, elle s'interrompt. Et beaucoup de gens sont très inquiets de savoir mais qu'est-ce qu'il en est de notre être après la mort, sans être forcément angoissé de l'idée, mais où était notre être avant notre naissance?
Peut-être, est-ce que pour finir, on pourrait évoquer le rapport du vieillissement de l'être humain, de sa mort, en fonction de l'évolution de l'espèce? C'est-à-dire, je disparais et ma génération disparaît, peut-être que la prochaine aura amélioré ou plutôt perverti certains éléments en moi.
Vous savez, c'était Max Gallo, l'historien, qui avait cette très belle phrase qui dit « La seule constante de l'avenir, c'est la surprise ». Voilà, donc si vous voulez, j'attends notre avenir. Vous voyez qu'on a quand même le retour de la guerre en Europe, un certain nombre de choses qui nous inquiètent par rapport aux évolutions politiques, aux mouvements populaires, etc. Mais en même temps, je suis animé d'une très grande confiance. Et je voudrais vous parler, puisque donc c'est quand même une radio judaïque sur laquelle je m'exprime aujourd'hui, la religion, c'est quand même ce qui nous permet à chacun de garder confiance. Et donc, gardons confiance dans les événements, gardons confiance dans la vie. Et puisque Dieu nous a confié un corps, prenons soin de ce corps et puis ayons confiance. Et nous avons, et je dirais ceci, espérons, avec cette confiance et cette espérance, d'avoir le plus longtemps possible à notre disposition une bonne santé pour vivre la vie que nous avons à vivre avec nos proches. Voilà comment je formulerai les choses.
Je vous remercie infiniment, docteur Patrick Clairvoy, de nous avoir éclairé ce titre, Les pouvoirs de l'esprit sur le corps. C'est un ouvrage qui est paru aux éditions Odile Jacob vers 2018. C'est un livre passionnant et j'espère avoir le plaisir de lire un autre ouvrage prochainement de vous et puis d'en parler aussi. Merci beaucoup, docteur.
C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.
À vous aussi. Merci. Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange.